La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Lors du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël jeudi dernier, des manifestants ont interrompu la représentation à la Philharmonie de Paris pour dénoncer les crimes de guerre et le génocide imputé au régime israélien. Lançant des tracts et un fumigène, ces manifestants ont été violemment pris à partie par des spectateurs et 4 personnes ont été placées en garde à vue. La Philharmonie a porté plainte en précisant que la sécurité avait été renforcée. L'orchestre a également, de sa propre initiative, selon la direction, terminé la soirée en jouant l'hymne national israélien. Ces incidents ont déclenché une série de réactions, condamnation ferme du gouvernement et indignation politique générale, mis à part quelques voix dissonantes à gauche. La tenue de ce concert avait déjà fait l'objet de polémiques et de discussions. Une lettre ouverte à la direction de la Philharmonie, publiée le 15 octobre dernier par des artistes et publics de la musique classique, appelait déjà à l'annulation du concert. Au-delà des faits, cette soirée pose la question que le philosophe Didier Héribon a formulée dans une tribune publiée sur le média indépendant Blast. L'art est-il jamais séparé de la politique ? En effet, la musique serait-elle au-dessus de la politique quand il s'agit d'Israël, tandis qu'en 2022, la même philharmonie avait déprogrammé les concerts d'un chef d'orchestre russe proche du pouvoir de Moscou au nom de la solidarité avec l'Ukraine. Et ce n'est pas un cas isolé. Quelques jours après ce concert, un colloque scientifique sur Gaza, organisé au Collège de France par l'historien Henri Lorenz, a été annulé sous pression politique. On invoque là encore la neutralité nécessaire à la recherche scientifique pour justifier une décision qui semble davantage relever de la censure. Deux événements, deux institutions prestigieuses et un même paradoxe. On proclame vouloir séparer art et politique, recherche et engagement, mais seulement quand ça arrange. Une pseudo-neutralité à géométrie variable. Au sommaire ce soir dans la matinale, on reçoit l'artiste Yalifai qui sort son dernier single « Bébé sur le côté ». Ce sera en deuxième partie d'émission. Fabien nous partagera des actus insolites et Hélène nous présentera une chronique quelque peu étonnante. On a hâte d'en savoir plus. Mais tout de suite, on se penche sur la santé sexuelle des jeunes en compagnie du docteur Samuel Etienne.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Pour commencer cette matinale, nous recevons donc Samuel Etienne, médecin généraliste à l'espace santé jeune de l'Hôtel Dieu de Paris, engagé dans la santé sexuelle et communautaire. Vous faites également partie du comité de coordination régionale pour la santé sexuelle des jeunes. Et à mes côtés pour mener cette interview, il y a Anaïs Mesba, je te laisse la parole.
Bonsoir à toutes et à tous, merci Juliette et bonsoir Monsieur Samuel Etienne.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Le jeudi dernier, nous avons eu la chance de participer à la conférence de presse sur la santé sexuelle organisée par HF Prévention. Un sujet qui est essentiel, qui est d'actualité et qui touche à la fois à la prévention, à l'éducation, mais aussi aux nouveaux enjeux sociaux et numériques. Lors de cette conférence, on a eu la chance de rencontrer le docteur Samuel Etienne, médecin généraliste à l'espace santé jeune de l'Hôtel Dieu à Paris, mais aussi vous exercez au cabinet Ipso, Richard Lenoir. Et donc pour réitérer, l'espace santé jeune, c'est bien un lieu d'accueil pour les jeunes en situation de rupture. Votre intervention a particulièrement marqué les esprits et on avait envie de poursuivre la discussion avec vous aujourd'hui pour comprendre un peu mieux les enjeux de la santé sexuelle aujourd'hui, les nouveaux besoins des jeunes, les défis sanitaires, mais aussi les solutions et pistes d'action possibles. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours et sur ce qui vous a poussé à vous impliquer dans la santé sexuelle des jeunes aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc moi, je suis médecin généraliste, jeune médecin généraliste. En fait, j'exerce depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé donc à l'espace santé jeune à l'Hôtel Dieu, qui est un service de consultation dans ce très vieil hôpital qui reçoit des jeunes de 13 à 21 ans qui sont dans des situations de rupture. On entend des situations de rupture des jeunes en fait qui vivent des situations sociales, familiales, scolaires difficile et la plupart des jeunes qui nous sont adressés par des partenaires socio-éducatifs et en premier lieu l'aide sociale à l'enfance, mais aussi la protection judiciaire de la jeunesse pour les jeunes judiciarisés qui font partie des jeunes qui vivent ces situations-là, la médecine scolaire également et les services de santé étudiants dans certaines situations, parce qu'en fait on fait du suivi médical pur et on fait du suivi notamment de pathologies chroniques et on peut étendre notre suivi jusqu'à 25 ans pour les personnes qui donc sont atteintes de pathologies chroniques. Ça fait donc 2 ans que je travaille à l'espace santé jeune. Là, depuis le mois de novembre, je viens de commencer une activité mixte entre la ville et l'hôpital. Et donc, je suis également médecin généraliste. Là, pour le coup, pas que pour les jeunes, mais pour tout le monde, de zéro à pas de limite. Donc, dans le 11e à Paris. Donc moi, mon activité, c'est une activité de médecine générale qui s'est d'abord centrée sur ce qu'on appelle la médecine de l'adolescence, qui n'est pas aujourd'hui à proprement parler une spécialité en France, bien qu'elle le soit dans d'autres pays, notamment d'Amérique du Nord ou d'Europe du Nord. J'ai étendu du coup mon activité à de la médecine générale plus générale là dernièrement, ce que j'avais appris à faire dans ma formation, mais que je ne faisais plus depuis 2 ans. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a amené à mettre la santé sexuelle en fait au cœur de votre activité ?
Alors la santé sexuelle, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui a toujours suscité en moi de l'engagement. Et en fait, j'ai appris le côté le plus technique des prises en charge de santé sexuelle au centre de santé sexuelle du même hôpital où je travaille actuellement, à l'Hôtel Dieu, qui est un gros centre de santé sexuelle dans le sens où on reçoit beaucoup de patients. J'ai eu envie de m'engager plus parce que dans le fil rouge en fait de mon engagement de médecin et dans mon activité, c'était d'avoir vraiment une action sur les populations les plus vulnérables et notamment les populations précaires. Et c'est dans le champ de la santé sexuelle notamment qu'on se rend compte que la santé est dégradée dans ces populations-là. Et en fait, c'est en soignant la santé sexuelle parfois qu'on ouvre la porte vers des soins de santé globale qui du coup sont plus facilement accessibles par ce biais-là, quoi.
Bien sûr. Lors de la conférence, il y a une phrase que vous avez prononcée qui a retenu notre attention. C'est le non-sexuel qui donne sens au sexuel. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Et en quoi cette idée influence votre manière d'accompagner vos patients ?
Alors cette phrase n'est pas de moi, cette phrase est un sociologue français qui s'appelle Michel Bozon, qui va un petit peu à contresens de ce qu'on pourrait penser quand on... Comment dire ça simplement, ce qu'on pourrait penser en fait quand on n'est pas expert de la question, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que les comportements sexuels et la sexualité en général définissent un peu qui on est et ce qu'on fait dans la vie, alors que finalement on se rend compte que c'est plutôt tout ce qui est dans l'environnement, le milieu social, l'éducation qui va définir un petit peu comment on va vivre ensuite notre sexualité et comment ça va se passer dans ce champ-là. Donc c'était cette phrase, je l'ai citée pour recentrer un petit peu l'attention sur le contexte d'une personne et pas sur ce que fait la personne pour essayer de la comprendre au mieux et de la soigner au mieux.
En effet, parce que pour remettre un peu en contexte, vous avez votre intervention est venue juste après plusieurs interventions qui nous ont présenté beaucoup, enfin d'études quantitatives. Donc c'était, enfin en tout cas pour ma part, ça a été un peu rafraîchissant de savoir qu'il y a d'autres dimensions qui doivent être prises en compte lorsqu'on étudie la santé sexuelle. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler précisément les différentes catégories un peu plus sociologiques à prendre en compte lorsqu'on parle de santé sexuelle ?
Alors. C'est un petit peu difficile de vous retrouver, de vous donner des catégories précises. En tout cas, vous l'avez mentionné au début, moi je travaille avec l'Agence régionale de santé dans un comité de coordination régionale de professionnels autour de la santé sexuelle, et pas des jeunes, hein, c'est de la santé sexuelle globale pour tout le monde. Et en fait... c'est très bien identifié au sein des instances de santé, notamment de l'ARS, qu'il y a des publics qui sont particulièrement vulnérables dans le champ de la santé sexuelle, notamment les publics jeunes, les publics migrants, les publics LGBT. Il y a également, on y pense assez peu, mais les personnes âgées. Les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est sur ces publics-là, en tout cas, qu'il faut essayer d'aller vers le plus possible et qu'il faut avoir une attention toute particulière et aussi une manière de prendre en charge plus particulière, quoi.
Vous êtes bien du coup, au contact quotidiennement de jeunes en situation de rupture, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que ça veut dire, situation de rupture? Qu'est-ce que ça englobe? Et aussi, quand ils viennent nous voir, quels sont les sujets, les blocages, les questions qui reviennent le plus souvent?
Alors, la rupture, nous, on l'entend dans le sens d'un arrêt de la progression vers l'autonomie dans l'adolescence. L'adolescence, c'est ce moment en fait, où on passe globalement de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Il n'a pas vraiment de limite en fait, qui peut être défini selon des termes en fonction des pays, notamment dans les pays anglo-saxons, on dit que c'est les âges des teens, donc de 13 à 19, pardon pour l'accent. Et l'OMS dit que c'est plutôt jusqu'à 21 ans. Les scientifiques purs et durs disent que la maturation cérébrale se fait jusqu'à 25 ans, donc peut-être que en fait, si on dit que la maturation sociale se calque sur la maturation physiologique, ça doit se faire jusqu'à 25 ans. En fait, ça dépend beaucoup des gens. Et la rupture, c'est tout événement qui va arriver pendant ce processus d'évolution qui va en fait entraîner l'absence d'évolution, notamment sociale. Et les situations de rupture qu'on retrouve le plus souvent dans ma pratique et dans le service dans lequel je travaille, c'est la migration. Et on reçoit quasiment 70% de notre patientèle sont des personnes issues de parcours migratoires qui sont souvent difficiles et qui amènent des questionnements sur la santé globale et la santé sexuelle qui peuvent être assez différents des questionnements des personnes qui ne vivent pas ces ruptures-là et qui peuvent paraître même assez primaires sur, par exemple, la manière dont se déroulent les rapports sexuels, de prévenir les infections sexuellement transmissibles, de prévenir les grossesses non désirées. Ces choses-là qui peuvent être simples pour les adolescents et les jeunes qui ont vécu en fait, ce cheminement non sans encombre, parce que l'adolescence, c'est jamais facile. Mais en tout cas, de manière continue, c'est donc des questionnements qui sont un petit peu plus basiques, entre guillemets, pour nous, de notre côté, et qu'on essaye de reprendre avec eux de manière très bienveillante et non stigmatisante, évidemment.
Et concernant le dépistage, est-ce que vous faites face à des réticences de la part des jeunes que vous suivez? Et si oui, lesquels reviennent le plus souvent?
Alors, nous, on fait un bilan de santé à chaque jeune qu'on reçoit pour la première consultation. Le bilan de santé, ça veut dire un examen médical, clinique, général, qui suit en fait une période de discussion où on va recueillir des informations sur la vie et la santé de la personne. Et à la suite de cet examen-là, il y a une prise de sang qui est très complète et dans laquelle on inclut le dépistage qu'on va adapter en fonction des facteurs de risque. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que vous que peut-être certains auditeurs risques ne maîtrisent pas. Mais dans les dépistages, on ne va pas doser les mêmes sérologies en fonction des risques des personnes, notamment les personnes usagères de drogue. On va essayer de faire des dépistages de l'hépatite C plus souvent. Les personnes qui ne sont pas vaccinées contre l'hépatite B, on dose l'hépatite B à chaque fois. Et on encourage la vaccination. Les personnes dites du groupe hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, on va doser l'hépatite A pour ensuite proposer la vaccination, etc. En fonction des zones avec les rapports sexuels, on fait des prélèvements locaux, que ce soit dans la gorge, au niveau génital ou au niveau de l'anus, en fonction des pratiques. Et ces choses-là, en fait, on les adapte. Mais on présente, en fait, en tout cas dans le cadre de l'espace santé jeune, le dépistage dans un bilan plus grand global de la santé globale. Et en fait, quand c'est présenté comme ça, et c'est pas caché, on ne dit pas juste on va faire une prise de sang et vous verrez bien ce qu'il y a, c'est assez bien accepté. On a pas mal de jeunes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Dans le contexte du parcours migratoire, on doit quand même faire des vérifications au niveau du VIH et des hépatites et de la syphilis pour tous les risques de transmission mère-enfant, donc qui sont détachés de la sexualité. Mais voilà, on explique chaque chose. Et les jeunes qui reviennent le plus souvent, alors nous, on est un peu biaisé par les pathologies chroniques et on a pas mal de jeunes qu'on suit pour l'hépatite B chronique, qui est en fait une infection sexuellement transmissible. Donc on fait les dépistages à chaque fois. fois tous les six mois à peu près. Et on a certains jeunes qui reviennent régulièrement. Ça nous arrive de recevoir les petites ou petits amis ou petites amies de nos patients pour faire les dépistages s'ils n'ont pas de médecin traitant, même s'ils ne rentrent pas dans nos critères d'admission, pour être le plus global possible, quoi.
Ok, merci beaucoup. On revient après une petite pause, on écoute Partir de Prima.
Tous les séances suspens. Ce monde qui ne s'attire plus grand chose me surprend. Dis-moi comment en rire quand tout devient urgent. Pour échapper au pire, faut devenir le méchant. J'ai essayé de combattre le mal, de déjouer leur plan macabre et les monstres dans le placard. J'ai essayé d'annuler mes échecs, de voir plus loin que le réveil et de grimper cette échelle. Laisse-moi partir, oublier tous mes ennuis. Si le monde court à sa perte, je courrai avec lui. Laisse-moi partir, céder à toutes mes envies. Si l'espoir est mort, bah je mourrai avec lui. Laisse-moi partir. Laisse-moi m'enfuir. Laisse-moi partir. Si l'humain est maudit, je maudirai contre lui. Bien longtemps des cartoons, des princesses, des châteaux. C'est bad news sur bad news, on nous fait pas de cadeaux. Pendant qu'on s'entretue, ils en font des tableaux. La cible sera vaincue quand on visera en haut. J'ai essayé de braver les interdits, de prendre ce qui m'était dû et d'abattre les bandits. J'ai essayé de trouver mon chemin, de faire confiance à demain sans faire appel au devin. Laisse-moi partir, oublier tous mes ennuis. Si le monde court à sa perte, je courrai avec lui. Laisse-moi partir, céder à toutes mes envies. Si l'espoir est mort, bah je mourrai avec lui. Laisse-moi partir. Laisse-moi m'enfuir. Laisse-moi partir. Si l'humain est maudit, je maudirai contre lui.
On est toujours avec Samuel Etienne, médecin généraliste engagé pour la sexualité, pour la santé sexuelle et communautaire. On a parlé jusqu'ici milieu social et environnement social dans le cadre de ce sujet, adolescence et jeunes en rupture. Et voilà, Naïs, je te laisse poursuivre.
Merci. Alors, pour rebondir un peu sur le sujet du dépistage, on remarque aujourd'hui que malgré la gratuité, malgré l'accès qui devient de plus en plus accessible, maintenant, grâce à VIH Test, on peut aller se faire dépister sans ordonnance, sans rendez-vous, et en plus de ça, c'est gratuit. Pourtant, il y a un décalage énorme. Si je devais même citer des chiffres, je me rappelle que pendant la conférence, on a dit qu'en 2024, 43% des diagnostics VIH sont encore faits à un stade tardif, alors que les tests sont de plus en plus accessibles. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce décalage ?
Je reviens sur une petite précision. VIH test, ça n'existe plus trop. Maintenant, on a étendu... Enfin, c'est pas moi qui ai étendu. Le gouvernement a étendu le test gratuit accessible sans ordonnance à tous les jeunes de moins de 26 ans pour toutes les IST, qu'elles soient au niveau de la prise de sang, au niveau des prélèvements locaux pour les IST bactériennes, chlamydia et gonocoque. Ça s'appelle Mon Test IST. Dans tous les laboratoires privés, sans ordonnance, moins de 26 ans, pas d'avance de frais. Plus de 26 ans, si vous avez une mutuelle, pas de problème. Effectivement... 43% des diagnostics de VIH se font à des stades tardifs. Bon, l'épidémiologie du VIH est assez particulière et en fait les publics qui sont les plus à risque au niveau du VIH revêtent aussi des caractéristiques très particulières. Donc là, il faudrait un vrai temps pour en discuter. Mmh. Mais effectivement, on remarque que les très jeunes ont assez peu recours au dépistage. Quand je dis très jeune, c'est entrer dans la vie sexuelle, donc on va dire en gros 15-19 ans. Et après, ça tend à s'améliorer un petit peu. Il y a quand même 30% des consultations des CEGID, donc les centres de dépistage, de diagnostic, qui sont faites par des moins de 25 ans, il me semble. Et l'enjeu se fait quand même chez les assez jeunes, quoi. Aujourd'hui, vous avez plus de 10%, je crois que c'est 13% des diagnostics de VIH, justement, qui sont faits chez les moins de 25 ans. Aujourd'hui en France. Donc il y a vraiment un enjeu, et pour arriver à passer l'information chez les plus jeunes, c'est clair que l'enjeu c'est l'éducation, et que sans éducation, sans information, il n'y aura pas de démarche. Après, il y a aussi d'autres choses, il y a le fait de bien informer sur l'anonymat des dépistages. C'est vrai qu'avec mon test IST, l'anonymat n'est pas garanti pour les personnes mineures, puisque étant encore sur la sécurité sociale de leurs parents, ce serait compliqué. Donc c'est beaucoup plus pour les plus de 18 ans. Par contre, les personnes mineures ont accès au dépistage, ont accès à l'IVG et ont accès à la contraception de manière anonyme et gratuite dans les centres de santé sexuelle et dans d'autres structures. Mais toutes ces choses-là, si on ne les explique pas avant, c'est un petit peu compliqué d'y avoir accès. Et effectivement, chez les très jeunes, c'est notamment le manque d'éducation, d'information, et souvent parce que les personnes qui délivrent l'éducation à l'endroit où elle doit être délivrée, c'est-à-dire à l'école, ne sont elles-mêmes pas forcément très à l'aise avec ces notions-là et avec les différentes ressources qui existent, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un aspect aussi mentalité, le fait d'être pas forcément confortable avec la question de la sexualité quand on est très jeune, et que pour, selon vous, la ressource essentielle du coup c'est l'éducation? Est-ce qu'il y a un aspect familial, le peut-être ce qui nous entoure autre que l'école, ou pour vous c'est vraiment à l'école qu'on doit apprendre de notre santé sexuelle?
Il y a les deux. En fait, l'éducation elle se fait à la maison et à l'école. Quand maison il y a, école pour tout le monde normalement, maison pas pour tout le monde. Parents, pas pour tout le monde, stabilité familiale et sociale, pas pour tout le monde. Et à mon sens, ça se fait là. Et on prend souvent, pour exemple, au niveau éducatif et au niveau de la santé, les pays nordiques, en fait, qui font énormément d'informations depuis le très jeune âge jusqu'à la fin de la scolarité sur ces questions-là. Et en fait, on voit des comportements chez les jeunes qui sont beaucoup plus dans la demande au niveau des dépistages, etc., dans les pays où, en fait, on anticipe énormément. Mmh. Et la gêne qui se fait, le côté pas à l'aise, c'est le manque de familiarité, en fait, avec la question. Plus elle est discutée dans le milieu familial, dans la société en général et dans le milieu scolaire, plus on se sent familier et on se sent à l'aise de poser les questions. Donc, c'est un tout, quoi.
C'est une globalité.
Oui, mais il n'y a pas de gêne prédisposant les Français à être mal à l'aise par rapport à la sexualité.
Non, oui. Et du coup, quand on parle de l'éducation, je me rappelle que pendant la conférence, vous avez vraiment insisté sur l'hétérogénéité des programmes scolaires. Concrètement, comment parler de sexualité avec les jeunes? Comment créer un espace d'échange?
Grande question. Le programme n'est pas hétérogène, puisque le programme qui est sorti en 2025, pour la rentrée 2025 en tout cas, est très clair, assez cadré et très progressif. La grande peur qu'on a aujourd'hui dans les réactions qui sont faites par rapport à ce programme-là, c'est qu'on va parler de sexualité à des enfants. Ça, c'est le gros truc qu'on a entendu. Bon, ça sort un petit peu du cadre des jeunes, mais juste pour rappeler, en fait, les plus jeunes enfants, on leur apprend à identifier leurs émotions et à les exprimer, et ça va pas beaucoup plus loin. Et aussi, on parle du rapport aux autres, mais du relationnel et jamais de sexualité. La sexualité est abordée à partir du collège, du milieu du collège, dans les programmes officiels. Excusez-moi, la deuxième partie de votre question.
Du coup, c'était comment créer un espace d'échange.
Comment on parle effectivement aux ados de ça. Espace d'échange, c'est assez particulier parce que c'est il y a quelque chose qui se fait à l'adolescence qui s'appelle l'effet de groupe et qui est un phénomène de survie naturelle qui permet de s'insérer dans la société. Vous parlez à un groupe d'amis de quatrième ou de troisième de sexualité, vous êtes tout seul face à eux. Va y avoir des rires, va y avoir des moqueries, va y avoir des blagues, va y avoir des photos sur Snapchat, va y avoir des... Voilà. L'espace d'échange, à mon sens, avec un ado, un jeune, c'est un espace d'échange individuel. Ce qu'il faut, dans ces moments-là, c'est délivrer de l'information de manière complètement dépassionnée et en arrêtant de faire des choses ridicules comme mettre des capotes sur des bananes, en fait. On croirait que c'est d'un autre temps, mais en fait, ça existe toujours. Laisser la porte ouverte vers un espace d'échange ultérieur. Et donc, toujours pareil, donner de l'information, adresser vers les bons professionnels, savoir aussi recueillir la parole. Ça, c'est assez compliqué, en fait, pour les personnes qui ne sont pas formées. Donc, il y a besoin de formation. C'est un petit peu là-dessus aussi que j'espère pouvoir travailler à l'Agence régionale de santé sur la formation des professionnels d'éducation nationale. Et j'invite notamment tous les professionnels de l'éducation nationale ou des études supérieures à désigner dans leur établissement une personne responsable et référente de la santé sexuelle qui saura recevoir cette information et cette formation pour ensuite favoriser la parole.
Oui, bien sûr. Et justement, au-delà de l'école, est-ce que vous pensez que les politiques publiques ont su s'adapter à ces réalités et quel rôle joue-t-elle, devrait-elle jouer aujourd'hui dans tout ça?
J'ai l'impression que pour l'instant, l'engagement n'est pas énorme. J'ai l'impression que le programme est sorti, mais que le cadre de mise en place du programme n'est pas non plus très clair et en tout cas n'est pas très proactif. On voit en plus des groupes privés, notamment des groupes privés de pensée type extrême droite, vouloir prendre la question et financer notamment des programmes alternatifs qui mettent qui valorisent la famille traditionnelle, etc. Comme si c'était une question qui était complètement oubliée dans les programmes classiques. Et donc on risque de jouer à un jeu dangereux en proposant des programmes, mais en s'impliquant pas assez pour les faire appliquer. Et donc pour l'instant, on a l'impression de toute façon que au niveau de la santé sexuelle, avec les changements ministériels, etc., qu'il n'y a pas encore d'engagement, qu'il n'y a pas encore de cadre de mise en place et que ça piétine un petit peu. Espérons que ça avance, en tout cas cette année.
Nous l'espérons aussi. Une dernière question qui est une nouvelle dimension de la santé sexuelle, c'est donc le numérique. À la fois un formidable outil d'information qu'on utilise tous les jours, mais aussi un espace de désinformation. Comment aider les jeunes aujourd'hui à distinguer le vrai du faux? Est-ce que vous en parlez à vos patients? En fait, comment un peu imposer le numérique aussi dans vos discussions en tant que médecin à votre patient?
D'un point de vue très général, j'ai des exemples. En fait, systématiquement, les personnes qui viennent me voir en consultation ont vérifié sur ChatGPT leurs symptômes et ont essayé de relier les choses en me demandant... et ne m'en parle pas, évidemment, avant. Et le numérique fait complètement partie de la consultation médicale maintenant. Pour ce qui est des jeunes, on a quand même une surconsommation chez certaines catégories de jeunes de réseaux sociaux, et notamment de réseaux sociaux qui donnent de l'information en instantané et de manière très rapide, type TikTok ou les Reels d'Instagram, etc. Et en fait, on peut tomber sur tout un tas de contenu qui délivre de la désinformation. Je pense qu'il faut quand même qu'on mise sur le numérique, parce que pour un jeune, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui compte, c'est beaucoup l'anonymat et c'est beaucoup le rapport à une seule personne et le fait d'être en dehors du groupe pour pouvoir poser ses questions. Et le numérique permet ça, en fait. Il permet de l'information anonyme et de l'information en face to phone to face. C'est quand même assez intéressant. Et après, pour tout ce qui est désinformation, il y a un engagement des pouvoirs publics qu'il va falloir mettre en place avec une sorte de certification des contenus qui sont validés scientifiquement, mais aussi au niveau éducatif. éducatif toujours, l'éducation a un usage raisonné, raisonnable des réseaux sociaux, que ce soit à l'école, mais aussi à la maison, quoi.
Tout le temps. En tout cas, merci beaucoup, monsieur docteur Samuel Etienne, d'être avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé plein d'informations super intéressantes et éclairantes. On retiendra que la santé sexuelle, ce n'est pas seulement une question de prévention médicale, mais aussi de dialogue, d'éducation et de confiance. Autant d'enjeux essentiels pour les jeunes aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Et à présent, que serait la matinale sans son flash info en bonne et due forme? Et tout de suite avec Sylvie Argibet. Le flash info de la matinale de 19h.
Bataille budgétaire à l'Assemblée nationale. Retour sur les principaux amendements adoptés dans le budget de la sécurité sociale. Désormais, l'affichage du Nutri-Score est obligatoire sur l'emballage des aliments. Seuls les produits bénéficiant des labels d'appellation d'origine contrôlée ou protégée, les fameux AOC ou AOP, sont exemptés. Les arrêts de travail sont désormais limités à un mois pour la première prescription et 2 mois pour un renouvellement. La colère gronde aussi chez les radiologues qui sont aujourd'hui en grève, avec 80% des cabinets fermés contre la baisse des tarifs imposés par l'assurance maladie suite à une rentabilité jugée excessive. Autre amendement adopté, une participation minimale sera demandée aux ressortissants étrangers non européens à leurs frais de santé. Inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Depuis 11h31 ce lundi, les femmes travaillent gratuitement et jusqu'à la fin de l'année, selon la lettre d'information féministe Les Glorieuses, qui alerte tous les ans sur cette date. À temps de travail équivalent, les femmes gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes, selon les dernières données de l'Institut National de la Statistique, l'INSEE, qui porte sur 2023. Nicolas Sarkozy remis en liberté sous contrôle judiciaire. Après 3 semaines de détention, la Cour d'appel de Paris a accédé à la demande de l'ancien président incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007 avec exécution provisoire de la peine. Le prévenu se voit infliger une interdiction de quitter le territoire et d'entrer en contact avec le garde des Sceaux Gérald Darmanin qu'il avait rendu visite en prison. Nicolas Sarkozy attendra donc en toute liberté son procès en appel programmé pour mars 2026. Et à l'international, c'est au cœur de l'Amazonie brésilienne, à Belém, que s'ouvre aujourd'hui la 30e conférence des Nations Unies sur le climat, la fameuse COP30. Pendant près de 15 jours, 191 pays vont débattre sur différents sujets. La finance climatique, la mise en œuvre d'un fonds inédit sur la préservation des forêts tropicales, la sortie des énergies fossiles ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chaque pays devra par ailleurs présenter une feuille de route climatique et les grands absents de cette COP sont les États-Unis, la Chine et l'Inde, les 3 plus grands émetteurs de CO2. Côté États-Unis, les démocrates se divisent au Sénat, ouvrant la voie à une sortie de la paralysie budgétaire. Après 40 jours de shutdown, 8 démocrates ont cédé et uni leur voix à celle des républicains sur un texte qui prévoit la reprise des activités gouvernementales jusqu'en janvier 2026. Un accord temporaire qui permet la reprise des services publics du pays, de nombreux fonctionnaires de l'État étant au chômage technique depuis plusieurs semaine.
Merci beaucoup Sylvie. Merci. On revient après une petite pause musicale. On écoute Sabir de Dardiscou et Bilour Batal. We'll be right back. C'était Sabir de Dardiscou et Bilour Batal. Il est 19h37 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Fabien est avec nous pour nous partager ses actus insolites. Nous sommes toutes
oui. Oui, bonsoir. Et oui, je vous ai encore trouvé des actus insolites. Pour ça, Internet regorge de choix. Voilà. Et on va commencer tout de suite. On va partir dans l'espace avec les astronautes de la station spatiale chinoise Tiangong qui ont réalisé le tout premier barbecue depuis l'espace. L'objectif, c'était d'expérimenter la vie quotidienne, de quoi faire également faire patienter 3 membres d'équipage dont le retour est prévu pour le 5 novembre et qui a été reporté en raison d'un risque d'impact avec des débris spatiaux. Et puis, donc, mercredi dernier, les habitants d'Ixassou dans les Pyrénées-Atlantiques, eh ben, ils ont eu une belle surprise en sortant sur leur terrasse. Dans la nuit de mardi à mercredi, un cheval s'est offert un bain plutôt insolite. Un peu trop curieux, il s'est aventuré dans le jardin d'un particulier avant de terminer sa course dans la piscine. Inévitablement, la bâche qui protégeait le bassin n'a pas résisté. Contacté par le propriétaire des lieux, les pompiers ont tenté de faire sortir le cheval de lui-même, mais les friandises proposées à ce visiteur à quatre pattes n'ont pas suffi à lui faire remonter les marches du bassin. Le travail de coordination des équipes sur place et la vidange du bassin ont finalement porté leurs fruits. Le cheval a pu être extrait sans blessure pour retrouver son propriétaire et ses prêts. Et dans le dernier épisode de la série Les Kardashians, Kim Kardashian a fait part de son scepticisme concernant l'émission Apollo 11 de 1969, au cours de laquelle les astronautes américains Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont fait leur premier pas sur la Lune. Et oui, nous sommes déjà allés sur la Lune 6 fois, a écrit jeudi Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA. Dans sa publication, il a également mis en avant la mission lunaire Artemis qui prévoit le retour des Américains sur la Lune. Il a dit « Nous avons gagné la dernière course à l'espace et nous gagnerons celle-ci aussi ». Et il a invité la star au Centre Spatial Kennedy, le principal site de lancement de la NASA, pour lui prouver que les Américains sont bien allés sur la Lune. Et dans un parc de Londres, des dizaines de jeunes sont réunis pour hurler en chœur et relâcher les tensions, un phénomène devenu viral sur TikTok. Ce club leur permet aussi de se rencontrer et d'échanger dans une capitale où beaucoup de gens se sentent seuls et ont des difficultés à se faire des amis. Elles comptent jusqu'à 3 et tous se mettent à crier à plein poumon en se filmant sur leur téléphone sous les yeux des passants amusés ou surpris. C'est thérapeutique et on se rend pas vraiment compte de tout ce qu'on garde en soi jusqu'au moment où on le laisse sortir. Un premier Scream Club avait attiré un millier de personnes dans un autre parc une semaine auparavant. Et lundi, c'est un policier de Détroit, donc aux États-Unis, qui a été appelé à témoigner dans le cadre d'une affaire. Et il a assisté par visioconférence à la séance qui se déroulait au tribunal du 36e district de Détroit. Mais il s'est présenté devant les juges dans une tenue inappropriée. Sur la vidéo, on peut voir l'officier de police assis, les jambes écartées, ne portant qu'une chemise d'uniforme et un caleçon. De son côté, le chef de la police de Détroit s'est exprimé via un communiqué. Le département de police de Détroit exige de ses agents qu'ils se représentent eux-mêmes de manière digne et professionnelle lorsqu'ils assistent aux procédures judiciaires. Une tenue d'affaires décontractée est préférée, peut-on lire. Le policier, lui, était peut-être un peu trop décontracté.
Merci Fabien. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir, dans le Zoom, on reçoit Yali Fay et à mes côtés pour ce Zoom, Rania Tuneki qui va mener cette interview. Bonsoir Rania.
Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Yali Fay, merci beaucoup d'être ce soir avec nous. Heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es une artiste originaire de Tours qui a d'ores et déjà sorti ton premier EP début 2025, Le ciel ne me regarde plus. Yali Fay, tu sembles être inclassable, à la fois de la pop mais aussi du rap et pas mal d'électro, mais pas que. Tu es à la croisée de tous ces styles musicaux et c'est ce qui fait ton originalité et ta marque de fabrique. Donc d'abord, j'aimerais te demander si tu as toujours voulu devenir chanteuse.
Bonsoir, déjà merci beaucoup de me recevoir. En réalité, c'est un peu venu naturellement, ça n'a pas toujours été un objectif, mais depuis que j'ai commencé, je ne me suis pas arrêtée. Du coup, on peut dire que depuis quelques années, oui, c'est un peu une évidence.
Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer précisément ?
À l'origine, j'écrivais des chansons plutôt pour une copine. Et en fait, ma mère habite dans une tour de 23 étages. Et au 24e, il y a un étage un peu caché avec une reverb super cool. Et du coup, on se posait là le soir et on écrivait, on chantait jusqu'à toute la nuit. Et au fur et à mesure, on s'est dit que ça serait peut-être cool de voir ce que ça donnerait en version enregistrée. Du coup, on a squatté les home studios des copains et voilà, j'ai pas arrêté. Voilà.
Et est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà, on va dire, ta ligne de travail, ta direction, ta DA que tu as aujourd'hui, ou c'était complètement différent ?
Non, en vrai, j'ai commencé plutôt par du R&B, peut-être même un peu soul. Et c'est au fur et à mesure, à force d'expérimenter, parce que quand on commence, forcément, on s'inspire de ce qui existe déjà. Et c'est à force de faire, de travailler, qu'on finit par trouver un genre qui nous correspond le mieux. Donc non, c'est à force de tests et d'échecs et beaucoup de ratés, de morceaux beaucoup ratés, que j'ai fini par trouver un peu ma patte, je pense.
Comment tu te décrirais en tant qu'artiste, en quelques mots ?
Waouh ! Mélancolique, parce que c'est quand même un thème qui revient beaucoup. C'est dur. Je pense que le mot qui définirait ma musique, ce serait la mélancolie, en vrai.
Et comment tu décrirais ton style musical ?
Mon style musical, bah, comme tu l'as dit, c'est un peu inclassable, c'est à la croisée de tout plein de genres qui m'ont inspirée depuis que je suis toute petite. Donc, je pourrais pas te dire exactement. C'est entre de la pop, de l'électro et du rap. Je pioche un peu dans tout ce qui me fait plaisir et ça donne. Y a du faille.
Est-ce que tu as des artistes qui te viennent en tête, qui t'inspirent directement pour écrire tes sons et...
C'est assez éclectique aussi. À la base, j'écoutais beaucoup de rap français, tout comme beaucoup de soul, beaucoup de jazz et. Beaucoup de pop américaine, donc je dirais entre Katy Perry, Nino et Amy Winehouse.
Qu'est-ce que tu écoutes ? Genre, quels sont les top artistes que tu as sur ton téléphone ?
James Blake, en premier. James Blake, vraiment mon artiste favori, je pense. En ce moment, beaucoup Rosalia. Je me suis vraiment pris son dernier projet, incroyable. Et Bonnie Banane, en artiste francophone. Je trouve qu'elle a vraiment un truc spécial à elle que je trouve hyper touchant et très authentique. Et c'est le genre d'artiste qui m'inspire beaucoup aussi.
Eh bien, on prend note de toutes ces inspirations. Ton style, donc, il est original. Est-ce que tu as d'autres références, enfin, niveau identité artistique et ou visuelle, qui t'ont aidé à construire le personnage de Yalifé ?
Oui, alors déjà le cinéma. Depuis que je suis petite, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu morbide. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais l'esthétique de Tim Burton me parle énormément. Tout ce qui est conte, c'est vraiment une esthétique qui me parle. Et après les Tarantino, ce genre de choses, des trucs entre l'absurde et l'esthétique, je dirais.
Tu es multitâche aussi, en effet, tu es autrice, tu es interprète et également beatmakeuse. Comment tu gères toutes ces casquettes ?
Je le gère pas. Non, en vrai, c'est un peu compliqué parce que en fait, j'aime bien toucher à tout et parfois, enfin, c'est autant ma force que mon gros défaut, je pense, parce que du coup, j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller. Mais je finis par m'y retrouver dans ce tas de nœuds et je finis par mener à bien mes projets. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pourrais pas te dire. C'est très aléatoire.
Est-ce que tu as des amis à toi, par exemple, qui peuvent t'aider sur certains projets, sur certaines tâches, ou vraiment t'es autonome de A à Z ?
Disons que mes amis qui sont dans la musique, on va dire, on a chacun nos projets personnels. Du coup, on se file la main de temps en temps quand on peut. Mais c'est vrai que globalement, je suis assez autonome sur toutes les tâches que j'ai à faire.
Ce mélange explosif qui marche super bien, il est aussi à la source de ton tout nouveau morceau, Bébé sur le côté, qui mélange groove house, mélodie douce aussi, et sentiment un peu d'urgence. Quelles ont été les émotions à l'origine de l'écriture de ce morceau ?
Je dirais de la déception. En vrai, la plupart de mes textes sont quand même dirigés sur le thème de l'amour, et ça parle de... petites expériences personnelles.
Niveau écriture aussi, est-ce que tu as un rituel, par exemple, qui te permet d'avoir toute la créativité et l'innovation nécessaires ?
Rituel, je sais pas. Après, je sais que, par exemple, je suis pas du tout une artiste de studio. C'est un truc qui m'angoisse profondément. J'aime bien être chez moi... seule avec mes chats. Et en général, ce que je fais, c'est que je lance une instru, j'écoute. Si j'ai une phrase qui vient spontanément, après, je finis par par écrire la suite à partir de cette phrase-là. Mais c'est vrai que j'écris très rarement à l'avance mes textes. Et en général, c'est vraiment du spontané. Et s'il faut, je repasse derrière pour ajuster certaines phrases qui ne me plaisent pas ou des rimes à mieux faire. Mais j'ai pas vraiment de... Enfin, je prévois rien à l'avance, en vrai.
Comment se passe ton processus créatif ? Pour rentrer un peu plus dans les, détails, comment se crée un clip, une musique, un texte ?
Alors, je dirais que c'est trois choses totalement différentes. Le texte, je dirais qu'il faut vraiment que je sois seule avec moi-même et que déjà, enfin, qu'il y ait une instru qui m'inspire. Donc, je dirais vraiment la solitude pour le texte. Pour ce qui est de l'enregistrement également, parce qu'en réalité, l'interprétation, c'est hyper... en tout cas, de mon point de vue, c'est hyper personnel. Et je sais que si j'étais en studio avec plein de gens, j'oserais pas forcément tenter... Enfin, il y aurait moins de prise de risque, je pense, dans l'interprétation. Après, pour ce qui est du clip, je suis dans le métro, je vois un truc cool, je le note dans mes notes et je fais un mood board et j'appelle des copains en mode « Coucou, j'ai une idée trop bizarre, est-ce que tu me suis ?» Et ils sont en mode « Allez, let's go !» Et après, c'est des mois de préparation, bien sûr, mais du spontané. Tout le temps.
Et on aime ça, la spontanéité. Comment tu fais du coup pour passer d'un style musical à un autre avec des directions artistiques qui restent assez différentes les unes des autres ?
En vrai, j'essaye quand même d'avoir une direction artistique qui est cohérente, même si effectivement les instrus changent d'un morceau à l'autre. Mais je pense que le fil conducteur de ma musique, c'est vraiment... le texte et la manière d'interpréter mes morceaux qui restent quand même similaires sur tous les morceaux, bien qu'ils changent, mais je veux dire, quand on passe d'une instru un peu bossa à une instru plus hyper pop, c'est sûr qu'on peut se dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en général, j'ai quand même une manière d'écrire mes textes qui... Enfin, j'ai vraiment une façon de faire qui fait que c'est le fil conducteur, je pense.
Et donc, dans la création vraiment de morceaux, est-ce que tu as une étape favorite que tu préfères ?
En vrai, le mixage, j'aime bien. J'aime bien le mixage, parce que c'est vraiment le moment où tu peux... Enfin, quand tu es content de ta maquette déjà, après, quand tu passes au mixage et que tu testes un peu des trucs un peu plus créatifs et tout, tu te dis « Waouh !» et tout, c'est encore mieux. Du coup, en vrai, je pense le mixage.
Merci Alifaï pour ta présence dans le studio, merci Rania. On écoute tout de suite ton single Bébé sur le côté qui est sorti ce mercredi sur toutes les plateformes.
Merci beaucoup.
Ouvert, j'ai laissé des PVA. Il me dit que je le verrai bien.
C'était Bébé sur le côté de Yalifay. Il est 19h53. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. Et c'est presque la fin de cette matinale, mais pas tout à fait, puisqu'avec moi en studio, il y a Hélène. Et tu vas nous proposer une chronique étonnante.
Ouais, en fait, Juliette, je suis super embêtée parce que j'ai pas du tout eu le temps de préparer la chronique. Ah mince, on est en direct là ?
Ah bah oui, là, les micros sont ouverts, on attend ta chronique, enfin, faut faire quelque chose là.
Ah ouais, non mais bon, t'inquiète, je gère, avec ChatGPT, j'en ai vraiment pour deux secondes. Salut ChatGPT, fais-moi SVP en urgence, une chronique humoristique pour Radio Campus Paris. Voici une courte chronique que tu pourrais donner à ta matinale avec un ton mordant, moderne, intelligent qui marque les esprits. Jingle, ambiance matinale, café converse. Ah, lundi matin sur Radio Campus Paris, ce moment magique où ton cerveau tente de redémarrer et échoue lamentablement. Tu te dis, allez, je me motive, alors tu bois ton café avant de réaliser que tu avais oublié de mettre de l'eau. Ha ha ha, courage les campusiens, la matinée ne fait que commencer. Jingle enjoué, rire en fond.
Ouais, je sais pas, je suis pas convaincue.
Ouais, t'inquiète, je vais améliorer, c'est pas compliqué. ChatGPT, tu pourrais remplacer le café par des frites ? Utiliser des frites dans une chronique humoristique matinale peut être très drôle et très surprenant. Et un vieil oreiller aussi ? Utiliser un vieil oreiller comme thème pour ta chronique humoristique est aussi une excellente idée, très originale et plein de potentiel comique et poétique. Et tu pourrais mettre genre un dinosaure ? Ton idée d'allusion au dinosaure dans ta chronique avec le vieil oreiller et les frites est vraiment astucieuse et amusante. Ouais, alors je sais pas, ajoute-moi un dernier truc, mais je sais pas trop quoi. Pour quelque chose de complètement autre et original, je te propose un gadget absurde comme un stylo 1000 bisous ou un ouvre-boîte vintage, ou bien un kiwi, c'est un fruit surprenant au fort potentiel comique avec sa texture velue et sa saveur acidulée. Ouais, trop bien le kiwi, voilà. Et tu sais quoi, ajoute-moi Trump. Trump c'est bien, ça marche toujours, vas-y. Je te propose donc une chronique intégrant un kiwi, un vieil oreiller, des frites, un dinosaure et Trump, en respectant une bonne structure radiophonique avec un ton drôle et percutant. Elle commence par une image frappante, le kiwi paumé, introduit ensuite des frites comme touche comique, et puis conclut sur une note légère et complice, idéale pour la radio. La chronique jouera sur le contraste entre personnage et objet, l'absurde, et glissera une allusion légère à Trump dans un contexte incongru, tout ça avec un rythme efficace et un ton léger. Ouais, c'est super, je pense qu'elle est bonne la chronique, vas-y. Jingle enjoué. Bruit léger de pelure de fruits. Bonjour les amis, ici votre dose quotidienne d'absurdes vitaminés. Aujourd'hui, j'ai trouvé un kiwi qui dormait sur un vieil oreiller, probablement après un destin de frites froides les plus molles du Jurassique. Ha ha ha. Et pendant qu'un dinosaure préhistorique réclamait sa part de ketchup, Trump a tweeté « Make kiwi great again ». Jiggle de faim, rire. Putain, génial, ça va trop le faire.
Mais c'est nul.
C'est nul. Ben, je sais pas, attends, et si on remplaçait Trump par Sarkozy et à la place d'un kiwi, on pourrait mettre un thé matcha ou du lait d'avoine ?
Merci Hélène, mais c'est bon, c'est la fin du journal, on va en rester là.
Mais j'ai pas eu le temps de faire ma chronique.
C'est déjà la fin de cette matinale, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à nos invités, Samuel Etienne et Yalifay, merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale, Anaïs Mesba, Sylvie Argibet, Rania Tounetti, Fabien et Hélène, merci à Fabrice Tiercy qui était ce soir à la réalisation, merci à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale. Restez bien sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est Pièces Détachées jusqu'à 21h. Et surtout, retrouvez-nous mercredi, parce que demain c'est férié. Même lieu, même heure, 19h pétante pour une nouvelle matinale.